direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Avec Thibaut Baduel et Baptiste Antoine. Bonjour, bonsoir. Passement de jambes, c'est un geste technique du football, c'est un tube de Doc Gynéco, et c'est aussi le titre que le nouveau théâtre de Montreuil a donné à son temps fort sport et genre. Il s'y déroule jusqu'à ce soir, en parallèle du début de la Coupe du Monde féminine qui a lieu pour la première fois en France. Elle affiche trois spectacles, dont Footballeuse, un portrait chorégraphique de Mickaël Philippot qui est avec nous. Également avec nous, une ancienne joueuse professionnelle, Mélissa Plaza. Elle a joué à La Roche-sur-Yon, Montpellier, à Lyon, deux fois championne de France, et Guingamp, médaille d'or avec l'équipe de France universitaire. Au JO de Guangzhou en 2015. Elle a été sélectionnée en équipe de France des moins de 20 ans, en équipe de France B puis A. Elle est aussi titulaire d'un doctorat en psychologie du sport et elle s'est intéressée à ce titre aux stéréotypes sexués en contexte sportif. Un double parcours, donc sportif et universitaire, qu'elle raconte dans un livre, pas pour les filles, avec un point d'interrogation, écrit avec la collaboration de Cécile Dupire. Il est paru aux éditions Robert Laffont et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Avant d'entamer notre discussion, on va se plonger dans l'ambiance qui régnait vendredi soir au Nouveau Théâtre de Montreuil en cette soirée d'ouverture du Mondial féminin. Les spectateurs étaient en effet conviés à une soirée foot avec d'abord la pièce footballeuse en première mi-temps et ensuite le match France-Corée du Sud en seconde mi-temps. Match remporté, faut-il le rappeler, 4-0 par les Bleus. Amélie Beaucourt était pour nous dans les gradins.
Nous sommes à la 9e minute de jeu. Eugénie Le Sommer ouvre le score sur un centre d'Amandine Henry devant une foule de supporters en folie. Pourtant, nous ne sommes ni au Parc des Princes ni dans un des nombreux bars qui retransmettent l'événement. Non, ces fans sont confortablement installés sur les sièges rouges du théâtre de Montreuil. Un endroit atypique mais qui plaît beaucoup.
Ce qui était génial, c'est qu'on pouvait boire de la bière, manger dans le théâtre, ça c'était super.
Encore plus sympa, c'est-à-dire on mélange tout, hein. La culture c'est aussi le foot, c'est aussi le théâtre, c'est aussi la musique comme il y avait avant, et de goûter à tout, c'est ça qui est bien dans la vie.
D'autant qu'il ne s'agit pas de n'importe quel match, mais de foot féminin. D'ailleurs, avant la diffusion, d'autres footballeuses, des comédiennes cette fois, s'entraînaient devant cette même salle de supporters, une manière de faire évoluer les mentalités.
J'ai l'impression d'avoir vraiment assisté à presque une démonstration de nous les filles on peut faire du football et du coup on vous propose et un spectacle qui parle de ça, qui laisse réfléchir, puis derrière ça la Coupe du Monde qui m'ont permis de réfléchir un petit peu au football féminin, un peu à me questionner sur qui étaient ces filles, pourquoi elles faisaient du football et pourquoi tout d'un coup en fait ça me semblerait bizarre qu'elles fassent du football.
Et pourquoi ça te semblerait bizarre?
Parce que c'est pas assez médiatisé, sans doute.
Pas assez médiatisé, pas assez connu. Pourtant, les filles de l'équipe de France ont fait beaucoup d'adeptes ce soir-là, chez les femmes comme chez les hommes, chez les grands comme chez les petits.
Moi, j'adore leur jeu et j'adore le foot en général. Mais je trouve que le foot féminin a vachement progressé. En plus, il n'y a pas la plaie que ce sont les hommes. Là, ils ont toujours mal, ils se tordent. Là, vous regardez la première mi-temps, il n'y a pas eu un arrêt de jeu. À jouer correct. Et c'est ça, le foot. Pour moi, quand on enlève tout le cinéma, il reste la qualité du jeu, il reste les buts et c'est ça le sport, quoi.
Comment vous les trouvez, les joueuses?
Super.
Elles sont trop fortes.
J'adore la 11, la 19, tout ça.
J'adore Henri.
Renard, à la fin.
Ouais, Henri et Renard, j'adore.
J'ai trouvé que c'était bien, elles jouaient bien, elles faisaient beaucoup de passes. Des fois, elles manquaient des buts, mais elles en faisaient beaucoup.
Elles sont fortes?
Oui.
Plus que les Coréennes?
Oui.
Voilà, victoire donc des Bleus 4-0, reportage d'Amélie Beaucourt dans VMDN. Alors je vous ai vu un petit peu tiquer, Mélissa Plaza, quand vous avez entendu les mots de football féminin ou de foot féminin. Vous avez dû pas mal tiquer d'ailleurs depuis quelques jours parce que ça vient évidemment naturellement dans la bouche de tous les commentateurs ou presque, même les commentatrices aussi d'ailleurs, parce que pour vous, le football féminin n'existe pas.
Ouais, j'arrête de tiquer parce que je vais finir épileptique sinon. Mais oui, le football féminin, pour moi, ça n'existe pas. Ça reste du foot. Je pense qu'il y a un des spectateurs d'ailleurs qui l'a très bien rappelé. Quand on enlève tout ce qu'il y a autour, ça reste du foot. Ça redevient l'essence même du foot. Et quand on parle de football féminin, ça veut dire que, parce qu'on parle jamais de football masculin. D'ailleurs, on ne dit pas danse féminine ou danse masculine, on dit danse. Donc quand on parle de football féminin, on sous-entend que c'est une discipline à part, un sport à part, qui serait que dans l'ombre des garçons. Et puis en plus, Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on en vient encore une fois à essentialiser les différences. Donc, c'est-à-dire qu'on voit ce football avec nos filtres sociaux. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ce soit lent, alors on trouve que c'est lent. On s'attend à ce qu'il y ait moins de simulation, alors on trouve qu'il y a moins de simulation. Mmh. On s'attend à ce que ce soit moins rugueux, donc on voit qu'il y a moins de tacles. Mais en fait, c'est exactement
faux. Ouais. Il y a autant de simulation que dans le football masculin. Vous voyez qu'on peut aussi parler de football masculin.
Oui, alors pour l'instant non, mais en tout cas, je veux pas rentrer dans ce genre de débat, ni dans un sens ni dans l'autre, que ce soit pour dire du positif ou du négatif. Je pense qu'il faut se centrer sur l'essence du jeu, c'est-à-dire voilà, le nombre de passes réussies, le nombre de buts, les actions bien menées, l'implication de ces joueuses qui a été énorme et fulgurante, et je pense qu'elles ont fait une très bonne rentrée dans cette compétition.
Alors peut-être que moi-même, d'ici la fin de l'émission, à mon corps défendant, je vais parler de football féminin, je m'en excuse par avance. Vous, Mickaël Philippot, votre spectacle s'appelle Footballeuse, là cette fois au féminin, on est bien d'accord, c'est lui qui a donc ouvert cette soirée au Nouveau Théâtre de Montreuil, on pourra encore le découvrir mardi soir. C'est un spectacle hybride qui tient à la fois du théâtre, de la danse et du portrait scénique. Vous en êtes donc le chorégraphe, metteur en scène, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé comme ça de vous intéresser au football et plus exactement aux femmes qui jouent à ce sport ?
Alors en fait, il y a quelques années, j'étais associé à un théâtre à Brétigny, sur Orge.
En banlieue parisienne.
Exactement, dans l'Essonne. Et la directrice travaille de manière très thématique. Et elle voulait faire tout un volet autour de la question du sport et des arts. Elle me demande si ça m'intéresse et je lui réponds absolument pas.
Et puis, c'est un bon début.
En discutant un peu plus avec l'équipe de ce théâtre, j'apprends qu'il y a le club de Juvisy, qui est un club de football pratiqué par les femmes extrêmement important en France, et avec une très belle histoire que j'ai découvert par la suite. Et tout à coup, je me suis dit, alors que le football ne m'intéressait a priori pas du tout, je le voyais même comme un sport assez machiste, pour voilà... Pardon, hein, si j'utilise
les termes. Vous avez totalement
raison. C'est pas moi qui vais vous dire.
Tout à coup, j'ai voulu rencontrer des femmes qui pratiquent le football. Et j'ai rencontré une première footballeuse qui s'appelle Brigitte Jägel, qui pratique le football depuis plusieurs décennies de manière amateur. Et je lui ai posé la question assez naïve de mon côté, en lui disant, est-ce que c'est simple d'être une femme aujourd'hui et de pratiquer le foot en France ? Et elle m'a répondu que non, qu'elle sentait en effet qu'au quotidien, elle subissait une sorte de sexisme qu'elle-même acceptait plus ou moins. En tous les cas, que ça faisait partie de son quotidien. Et tout à coup, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui est à creuser dans cette question. Et ça a été notre point de départ. Et ensuite, on a mis plusieurs mois, presque un an à constituer cette équipe.
Cette équipe, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que le mot équipe, effectivement, ouais. On y pense toujours quand on voit vos 10 comédiennes danseuses, hein, parce que ce sont un peu les deux, hein, arrivées sur le plateau.
L'une d'elles est comédienne, mais il se trouve que elle est là avant tout en tant que footballeuse. Elle pratique tout le football à des endroits très différents. L'une est secrétaire d'un club, une autre entraîne les jeunes filles, les jeunes garçons au football, mais elles ont toutes un lien extrêmement étroit au football.
Et vous êtes partie de leur vécu pour monter ce spectacle. Juste une petite question, parce qu'on s'attend effectivement à ce qu'elles soient 11, elles sont 10 sur le plateau, pourquoi ?
En fait, au début, j'étais parti sur le fantasme qu'elles soient 11, en effet. Et quand on a créé la pièce, elles étaient 12. Pour la première, c'était il y a un an et demi au Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France. Et trois sont partis parce que à un moment se posait aussi la question des tournées et qu'à un moment elles m'ont dit on préfère plutôt privilégier les matchs plus que la pièce. Donc trois sont partis, une est arrivée et depuis maintenant plus de 2 ans, l'équipe est constituée de 10 femmes. Peu importe, il y a eu une remplaçante à un moment, et puis...
Il y a eu un carton rouge, c'est pas grave, ça arrive.
Oui, exactement.
Je m'appelle Brigitte, j'ai 59 ans. Je suis maman d'une fille de 24 ans, et je travaille en tant qu'agent d'escale dans une compagnie aérienne. Je baigne dans le monde du football depuis toute petite, parce que mon papa était footballeur professionnel. Cependant, je n'ai chaussé les crampons que tardivement, à l'âge de 15 ans jusqu'à 19 ans. Après un break de 25 ans, j'ai recommencé à jouer dans un club de foot féminin. Poste actuel, milieu droit, numéro le 10, qui est également celui de Zizou.
Vanessa, 32 ans, Pendant un peu plus de 10 ans, je n'ai fait que de l'athlétisme comme sport. Il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le club de foot féminin de Bondouf. J'ai sauté sur l'occasion, car je suis passionnée par ce sport, et j'en suis d'ailleurs régulièrement à l'actualité. Actuellement, j'évolue au poste d'arrière droit, et ce que j'aime particulièrement, c'est de pouvoir faire une passe décisive à une de mes coéquipières.
Olivia, 28 ans, maraîchère. Moi, j'ai toujours tapé dans la balle quand j'étais petite dans la cour d'école, mais pas pendant la récré parce que j'avais peur qu'on me traite de garçon manqué. Plus tard dans ma scolarité, je me suis sentie complètement privée de mon corps. Alors quand j'ai déménagé à Marseille, je me suis remise au foot parce que mon corps le désirait.
Ouais, et ça s'entend pas évidemment parce que il faut évidemment voir le spectacle, Mickaël Philippot, mais sur le plateau du Nouveau Théâtre de Montreuil, il y a des profils extrêmement différents. Il y a eu un casting, comment ça s'est passé?
Absolument pas. En fait, moi je ne travaille jamais à partir de casting dans aucune des pièces que j'ai faites jusqu'à présent, et je pars vraiment du désir des personnes à être présentes. Donc j'avais commencé à rencontrer cette fameuse Brigitte qu'on entend au tout début, qui a 59 ans et qui a eu un très beau parcours. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle avait repris le foot à 45 ans. Elle a arrêté pour des raisons professionnelles et étant maman. Et elle a repris le football à 45 ans, et quand elle a repris le football, elle m'a dit j'ai eu l'impression de redécouvrir le rapport à mon corps. Et je me suis dit, mais c'est exactement la même chose quand j'ai pris mon premier cours de danse à 18 ans, donc c'était assez tard. Et à la suite de ça, elle m'a emmené sur des entraînements dans différents clubs, et puis il y a eu un groupe de 8 femmes, et puis il se trouve qu'après je connaissais une grande amatrice de danse que je voyais beaucoup en tant que spectatrice, qui s'appelle Bettina, et qui elle est issue d'un club militant LGBTI. Et je ne savais pas qu'elle faisait du football, mais je l'ai su par une amie commune. Et donc je lui ai demandé de venir sur un temps de répétition, d'entraînement, d'échauffement. Et elle a été très touchée par les femmes qui étaient présentes, et elle m'a dit, si tu veux, moi je peux amener des copines de cette même association francilienne qui s'appelle les Dégommeuses. Et donc voilà, les femmes ont des profils très différents. C'est-à-dire,
et ça tombe bien de toute façon, mais ce n'était pas voulu.
Complètement.
En fait,
je m'en rends compte a posteriori, c'est-à-dire que, alors que mon désir était vraiment de travailler avec une équipe déjà constituée, parce que je me disais, c'est 50% du travail, la connivence, la cohésion d'un groupe. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que l'hétérogénéité de ces parcours, de ces profils, de ces corps, de ces âges, parce que la plus jeune, Coco, a maintenant 23 ans, Brigitte a 59 ans, c'est ce qui crée aussi la richesse de cette pièce.
Je m'appelle Coraline, tout le monde m'appelle Coco, j'ai 23 ans. Quand j'étais petite et que je voulais me vider la tête, je prenais le ballon et j'allais taper contre le mur. Maintenant, je suis gardienne, comme l'était mon père. Et comme je suis superstitieuse, je joue jamais sans maillot. Moi, je m'appelle Lou. Petite, j'ai pris pas mal de râteaux au foot. Dans le jardin, avec les copains de mon frère, il n'y avait jamais moyen d'avoir la balle. J'étais la petite sœur de Paul, sympa mais surtout gênante. Par contre, j'étais toujours bienvenue sur les genoux de mon père pour regarder des matchs à la télé. On était très proches et ça me permettait de passer un maximum de temps avec lui. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai rejoint une équipe. Je me rends compte chaque soir que de courir, de jouer, ça me libère.
Je m'appelle Valérie. J'ai une fille de 22 ans que j'ai eue à 30 ans. Je suis footballeuse, mais je ne joue pas. Je suis bénévole. Aujourd'hui, je porte le numéro 4, maillot que portait ma fille et que me prête gentiment Hortense.
Hortense, c'est moi. Quand j'étais petite, je regardais le foot avec ma grand-mère et je rêvais de devenir Ibrahim Ba, Sylvain Wiltord et Djibril Cissé. Je me disais que je pouvais être comme eux parce qu'ils étaient blonds comme moi.
Voilà, un peu d'humour, un peu d'émotion, même beaucoup d'émotion dans les différents témoignages. Mickaël Philippot, ces mots que l'on entend sur scène, ce sont les propres mots des artistes que vous avez réunis?
Complètement. En fait, je reviens simplement sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que elles ne sont pas comédiennes. On a énormément travaillé à partir de leurs propres mots.
Et pas des comédiennes professionnelles, mais de fait, elles le sont.
Ce sont des danseuses, dans ce cas, enfin des interprètes, je dirais, pour rester plus ouvert. Parce que je tiens vraiment au fait que ce projet, c'est vraiment une pièce chorégraphique. C'est-à-dire que j'ai grandi dans la danse, mes outils sont liés à la danse, et c'est vrai qu'on... C'est vraiment On s'est posé la question de comment travailler à partir du football, mais avec des outils que sont les miens et les nôtres, avec Marcela Santander, Corvalan, qui m'a assisté sur cette pièce et qui est remplaçante en ce moment parce que l'une des femmes est enceinte actuellement. Donc elle la remplace.
Oui.
Et en effet, elles ne sont pas là en tant que comédiennes, elles sont là en tant qu'elles-mêmes et elles portent le poids de leurs propres paroles. Et donc tous les témoignages qu'elles disent, qu'elles prononcent sur le plateau, que ce soit la raison pour laquelle elles sont arrivées au football, pourquoi elles ont mis du temps à aller sur un terrain ou à s'entraîner tout simplement, ou les remarques sexistes qu'elles ont pu subir, tout ça vient vraiment de leur réel témoignage.
Et comment est-ce que vous avez travaillé avec vous, parce que c'est pas évident déjà de parler de soi tout court, c'est de parler de soi sur une scène en regardant un public, ça l'est encore moins. Elles étaient prêtes à le faire, il a fallu que vous les poussiez, il a fallu que vous mettiez en forme leur discours, comment ça s'est passé?
Les pousser pas du tout, en tous les cas ça a nécessité un long processus de travail, parce qu'en effet c'est déjà compliqué quand on est professionnel d'être sur un plateau. Ensuite, de parler de soi, c'est encore une autre étape. Mais alors, quand on n'a pas l'habitude de ça, évidemment, il faut avoir confiance. Et je pense que le plus important dans ce processus, c'est de s'être fait confiance mutuellement. Autant elle envers moi que moi envers elle. Et quand je vois, voilà, la création il y a un an et demi était extrêmement fragile. Aujourd'hui, c'est une aventure à la fois artistique, mais humaine aussi, extrêmement forte. Et quand je vois comment elles s'emparent aujourd'hui, c'est leur pièce, c'est-à-dire qu'elles sont là. Et puis on transforme la pièce presque à chaque fois qu'on la rejoue. Vendredi et samedi, quand on a rejoué la pièce au théâtre de Montreuil, on a introduit les propos de Finkielkraut.
Voilà, Finkielkraut, le philosophe sur CNews,
voilà,
qui expliquait qu'il aimait pas regarder le football féminin à la télé parce que c'est pas comme ça qu'il voulait voir le corps des femmes.
Exactement. Donc ça, ça date du 5 juin dernier. Donc voilà, on en fonction de l'actualité et de ce qui nous traverse ou ce qui nous choque, etc., on fait évoluer aussi ce projet.
Moi, je m'appelle Bettina, je fais du foot parce que ma famille déteste ça. En fait, non, c'est parce que dans la cour de récréation, on avait le choix entre jouer au papa et la maman et faire du foot. Bah voilà. Et sinon, j'ai repris il y a 4 ans dans un club de foot féminin avec nous. Et comme il y avait des jolies filles, on est resté.
Carole, tu sais-le, pour être plus équilibré. Comment ne pas s'intéresser au foot quand on a 4 footeux à la maison? Et de 4 de jeunes enfants, j'ai voulu mettre la contribution des compétences professionnelles dans le milieu du foot. J'ai donc franchi la barrière en entraînant les enfants de 5 à 8 ans. Puis, j'ai gravi les échelons en prenant la présidence du club de foot de Bondouf. Ce soir, j'intègre l'équipe qui se trouve derrière moi en tant que joueuse imaginaire.
Je m'appelle Mélanie. Je ne sais pas vraiment d'où vient mon amour du foot. Je suis née dans une famille d'artistes, alors le foot, c'est pas que c'était interdit, c'est que ça n'existait simplement pas. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours joué au foot, dans la cour de mon immeuble, dans la cour de récré. Enfin, en arrivant au collège, les choses ont un peu changé. Le mini-championnat organisé entre les classes était réservé aux garçons. C'était un peu, bon, bah, les filles, vous pouvez pas jouer, mais on compte sur vous pour venir nous supporter. Alors, à 11 ans, j'ai intégré cette nouvelle règle, j'ai supporté, dans les bars, dans les stades, ou dans ma chambre en suivant les matchs à la radio. Et ça fait seulement 2 ans que j'ai rejoint une équipe de foot féminin.
Voilà, énormément donc de mots qui racontent des parcours extrêmement différents, mais toujours cet amour du football. Mélissa Plaza, comment est-ce qu'il résonne justement ces différents parcours tels que vous les avez entendus là à travers ces courts extraits? Est-ce que ces propos ressemblent au vécu des joueuses que vous avez croisées, voire à votre vécu à vous?
Oui, alors enfin, en fait, toutes les origines de cette passion, elles peuvent être différentes, mais la passion reste la même, que ce soit une origine sociale, parce que parfois c'est effectivement un papa, un grand frère, parfois c'est pour pas faire comme dans la famille. Donc tout ça à la fois fait écho à ce que moi j'ai vécu, à ce que d'autres de mes coéquipières ont vécu. Mais ce qui reste en fait, c'est le plaisir qu'elles ont à pratiquer, ce que ça leur apporte aussi en termes de liberté et d'émancipation. Et je crois que c'est ça le plus important. C'est vrai que j'ai vu qu'un extrait de la pièce, mais ça a l'air vraiment de pas seulement toucher à la théorie du genre, mais aussi à tout ce qui est intersectionnel, puisque j'ai vu des femmes racisées, j'ai vu des femmes de tous les âges, j'ai vu plein de profils différents, donc c'est ça qui est intéressant aussi au travers de cette pièce.
Alors il y a le plaisir effectivement, et puis il y a aussi le regard et les mots que les autres portent sur les footballeuses, hein, et c'est, vous en parlez aussi énormément dans le livre. Pour une fille, écrivez-vous, faire du sport à l'adolescence, c'est déjà transgresser les normes féminines, hein, c'est ce que vous expliquez à vos lecteurs. En plus, quand le sport comme le football est qualifié de sport masculin, mais c'est encore plus vrai pour la boxe ou le rugby par exemple, on se fait traiter de garçon manqué, et l'une des interprètes parle effectivement de ça, les moqueries, même l'expression l'aiguine du vestiaire, on entend aussi effectivement dans la pièce, ce sont des mots, cette violence-là, vous l'avez aussi vécue.
Oui, oui, tout à fait. Bah, ça commence déjà par l'exclusion dans la cour de l'école. C'est vrai que quand, moi j'étais la seule fille à vouloir jouer au foot, mais j'étais très souvent au départ exclue. Et puis à force effectivement de démonstration et d'insistance, j'ai réussi à faire mes preuves et avoir le droit, ne serait-ce que de pouvoir jouer avec eux. Mais c'est vrai que j'ai très souvent entendu l'expression garçon manqué. Quand on nous dit garçon manqué, on veut simplement nous signifier qu'on fait pas ce qu'on attend de nous en tant que fille ou en tant que femme. C'est-à-dire qu'on s'affranchit des diktats de la féminité. Avec un certain zèle aussi. Et puis ça nous rappelle simplement la hiérarchie qui existe aujourd'hui entre les sexes. C'est-à-dire que quand vous êtes un garçon manqué, vous êtes un peu mieux qu'une fille, mais vous êtes quand même pas tout à fait un garçon. Donc vous occupez en fait la seconde marche du podium. Et puis ben, je vous parle pas des filles manquées, dont d'ailleurs on ne les appelle pas les filles manquées, on les appelle les PD ou les homos, mais qui sont en fait des garçons qui, eux, s'affranchissent des dictats de la masculinité et qui occupent, eux, la quatrième place, qui sont même pas sur le podium, quoi.
Alors votre parcours à vous, Mélissa Plaza, vous le racontez donc dans ce livre, chez Robert Laffont, Pas pour les filles, avec un point d'interrogation que l'on devine un petit peu rageur. Hein. Tant vous avez dû vous battre pour parvenir à réaliser votre rêve de devenir une footballeuse professionnelle, un rêve que vous avez eu effectivement très tôt. Vous parlez d'une photographie de vous avec la balle au pied quand vous aviez 3 ans. En fait, il y a une forme de, j'ose même pas dire de coup de foudre, parce que on a l'impression que votre rencontre avec le football, c'est comme ça, quoi. C'est naturel, ça ne s'explique pas.
C'était une évidence. Je sais pas si dans une ancienne vie j'étais déjà footballeuse professionnelle, mais en tout cas oui, dès mes 3 ans. Et d'ailleurs c'est drôle, c'est que après coup j'ai réalisé que cette photo que j'avais prise pour la couverture, elle faisait précisément écho aux mots que j'énonce dans ce texte à propos de cette photo de quand j'ai 3 ans et que je tire exactement de la façon dont je tire aujourd'hui, avec l'alignement bras, hanches, épaules, etc. C'est vrai que cette photo, elle vient démentir le titre, en fait. C'est effectivement que c'est pour les filles autant que pour les garçons. D'ailleurs, le cerveau ne retient pas la négation, donc vous allez retenir que pour les filles, et ça m'arrange bien.
Oui.
Mais c'est vrai que oui, c'est un parcours un petit peu rageur, et que c'est à travers en plus le football que j'ai eu la chance de me sauver d'une enfance quelque peu chaotique.
Oui, parce que vous racontez effectivement votre vie pendant cette enfance qui a été extrêmement violente. Vous racontez des détails extrêmement crus, hein, qu'il s'agisse de violences physiques, de violences verbales, de violences psychologiques, de viols, alors que vous êtes d'ailleurs extrêmement jeune. On peut dire que le football a sauvé, le football vous a apporté un tout petit peu d'oxygène.
Ah mais clairement, ça m'a sauvé la vie, et je pèse mes mots quand je le dis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai peut-être mis autant de temps à pouvoir parler de mon enfance. Jusqu'à présent, j'étais restée extrêmement pudique vis-à-vis de ça. Dans mes conférences, j'en parle très peu. C'est juste une phrase qui passe, que personne ne saisit vraiment. En tout cas, personne ne saisit vraiment l'ampleur des dégâts psychologiques et physiques qui ont été... ceux de mon enfance, mais c'était le moment pour moi de raconter ça, parce que...
Là, vous mettez clairement les points sur les i. Hein.
Oui, 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 et en même temps, en fait, c'était vraiment un besoin thérapeutique, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce besoin d'utiliser les mots, que ce soit avec la parole, que ce soit à l'écrit, que ce soit... Peu importe, j'avais besoin de les coucher sur le papier pour pouvoir me soigner un petit peu de tout ça, parce que pendant longtemps, j'ai laissé ça à distance en me disant, oh, c'est bon, t'es assez forte pour pas avoir besoin de revenir là-dessus. Et puis finalement, le passé nous rattrape toujours quand on n'est pas soigné de ça. Donc voilà, ça a été mon chemin de vie. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, mais c'est ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Et je vous avoue que je suis plus du tout dans une idée de revanche ou ou d'amertume. Je suis vraiment presque reconnaissante de cette histoire. C'est-à-dire, je me suis pas réincarnée dans ce corps et dans cette famille par hasard. Je me suis réincarnée parce que j'avais des choses à travailler sur moi-même, et cette enfance précisément m'a amenée à accomplir tous ces rêves aujourd'hui, et notamment cette publication de ce bouquin aux éditions Robert Laffont, qui est quand même formidable.
Et les épreuves vous ont donné un tempérament extrêmement combatif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris d'ailleurs dans les vestiaires de foot, parce que bon, quand on connaît pas du tout le monde du football, on se dit que ça peut aller quand même très très loin, quoi, non seulement l'esprit de compétition, mais parfois même l'esprit de haine dans les vestiaires. À Montpellier, par exemple, ce que vous racontez, c'est quand même absolument hallucinant, quoi. C'est un milieu où on ne se fait vraiment pas de cadeaux.
Oui, tout à
même
fait.
Même quand il n'y a pas les enjeux financiers qu'il peut y avoir dans un vestiaire masculin.
Oui, c'est vrai qu'on se fait une image assez idyllique du sport du haut niveau, mais en réalité, y compris dans le sport collectif, hein, en réalité, notre place, elle se fait au détriment toujours de celle d'une autre, donc nécessairement...
Coéquipière et concurrente.
Voilà, c'est ça, tous les coups bas sont un petit peu permis, et puis je crois aussi que finalement, dans un système de domination masculine, le meilleur moyen de préserver le système de domination, c'est de diviser les opprimés, et c'est ce qui se passe très bien, en fait, c'est qu'on se fait la guerre entre nous, et on oublie que l'essentiel, c'est d'aller conquérir ce qui nous est dû, en fait.
Alors vous passez par Montpellier, où effectivement la vie est vraiment très très compliquée. Ensuite il y a Lyon. Alors là l'ambiance elle est meilleure, hein. En plus c'est vraiment le club que vous rêviez d'intégrer, parce que c'est vrai que du point de vue du tableau féminin, il a remporté vraiment énormément de titres. Je suis pas le chiffre en tête, mais enfin c'est quand même
13 championnats de France consécutifs, pas mal de Ligue des Champions.
C'est le club de France, c'est le club de football féminin, ouais, en France. Vous rendez hommage au président Aulas notamment. Sauf que là c'est les pépins physiques qui vous rattrapent, hein, de gros pépins physiques notamment au genou, qui va vous empêcher d'ailleurs d'accomplir un certain nombre de rêves, d'intégrer en particulier le mondial. Alors il y a notre problème aussi, hein, en 2011, c'est lui d'ailleurs avec lequel vous ouvrez ouais, le livre, hein, donc un problème au genou, toujours un sacré genou quand même, hein, c'est ouais, regret éternel, quoi. Vous ratez le mondial cette année-là, vous voyez arriver la consécration et puis elle se dérobe sous vos pieds.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai souhaité ouvrir ce livre par ce chapitre très marquant, parce que c'est vraiment le carrefour de ma vie. Cette blessure, quand elle se passe, évidemment je suis dévastée parce que je vais rater tout ce à quoi j'aspirais, et en même temps, Quand survient cette blessure, je réalise pas à quel point tout ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire ma propre négligence en me disant que je suis surhumaine et que je vais pouvoir revenir bien plus vite que les autres, mais aussi toutes les négligences autour, vont conditionner toute la suite de ma carrière et de ma vie. Et pendant longtemps, quand le foot s'est arrêté en 2016, j'ai été effarée. Je me disais que c'était injuste ce qui m'arrivait, je comprenais pas, j'avais beaucoup de regrets, et je me disais toujours que ma carrière était inachevée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en paix avec ça, parce que la question, elle est jamais de savoir si c'est juste ou si c'est injuste qui vous arrive. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez en faire maintenant. Et aujourd'hui, je sais que c'est tout ça qui fait que je suis conférencière, j'ai écrit ce bouquin et qu'il y a encore plein d'autres projets à venir pour la suite.
VMDN avec Mélissa Plaza, qui publie Pas pour les filles chez Robert Laffont, et Mickaël Philippot pour le spectacle Footballeuse au Nouveau Théâtre de Montreuil. Alors, le spectacle, Mickaël Philippot, commence par une séance d'entraînement, hein, sur le plateau de Montreuil. Alors, pas de tapis vert, hein, y a pas de ligne, y a même pas de cage de but, hein, c'est vraiment un plateau nu. Est-ce que vos comédiennes ont investi la scène comme un terrain de foot?
Ce sont des questions qu'on s'est posées. Alors, la pièce commence même par une interview de Gigi Souef quand elle avait 15 ans, qui est une des pionnières de l'équipe de Reims à la fin des années 60, début des années 70, et qui a connu une ascension complètement dingue. Et ce sont des questions ménagères. C'est assez éloquent, c'est-à-dire qu'on ne lui pose absolument aucune question sur le football, ou alors si on y fait référence, c'est tout à coup pour le détourner, comme par exemple, vous avez un beau jeu de tête, mais dans la vie, êtes-vous une femme de tête, par exemple, et j'en passe. Donc ça commence par ça, donc ça donne un peu le ton, et ensuite en effet elles rentrent et elles sont comme dans les vestiaires, donc on a un peu essayé de transposer quels sont les atomes crochus entre un terrain de football et un plateau de danse. Donc on est parti à chaque fois pour quasiment toutes les séquences de cette pièce, on a pris le football comme matière chorégraphique.
Mais alors justement, pour un chorégraphe, la question du corps, elle est évidemment centrale. Est-ce que le corps de la footballeuse et le corps de la danseuse s'expriment de la même façon sur votre plateau ?
Je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de la singularité de ces 10 femmes, parce que c'est pas une pièce sur le football, c'est vraiment une galerie de portraits, comme vous le rappeliez tout à l'heure. C'est une prise de parole individuelle de chacune de ces femmes, et c'est aussi entremêlé du plaisir de pratiquer ce sport collectif. Et c'est vrai que on s'est énormément amusé entre guillemets à travailler à partir de ce que serait le mouvement d'une footballeuse et comment on s'est interrogé. Et déjà, ne serait-ce que de décontextualiser ce mouvement-là, ça le transforme, ça en crée une matière chorégraphique passionnante à triturer, à interroger. On est passé par beaucoup de phases de travail, comme par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire de ralentir le mouvement d'une femme en train de pratiquer le football.
Et des nouvelles sur RFI.
Ouais, là, c'est vraiment le bruit des ballons que l'on entend effectivement sur le plateau du théâtre. Vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre, Mélissa Plaza, le plaisir de jouer avec un ballon, le plaisir de travailler, le plaisir de s'entraîner jusqu'à, et là ça va peut-être intéresser le chorégraphe qui est Marcel Philippot, jusqu'à la répétition des gestes techniques. Quel est votre ressenti à ce moment-là?
Oui, c'est vraiment la partie technique, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le football. C'est étrange, il y a beaucoup de gens qui vous diront c'est les matchs, c'est les compétitions. Moi, ce que j'aimais, c'était la répétition. C'était le fait d'arriver à répéter les gammes indéfiniment et surtout d'arriver à un geste parfait. C'est-à-dire la sensation que sans regarder le ballon, au moment où le contact se fait, vous savez que le geste est bon, le geste est parfait, parfaitement réalisé. Et je prenais beaucoup de plaisir à le faire seul, évidemment. Alors au début, je raconte cette histoire de jonglage où j'essayais de battre mes propres records et je faisais en sœur tyrannique compter mon petit frère à côté parce qu'il était trop nul pour jouer avec moi. Mais il y a aussi ensuite toute la partie technique qui consiste à s'échauffer au tout début, et je m'échauffais soit seule face à une planche à rebond, ça c'était jubilatoire, soit avec une partenaire, et je parle notamment des japonaises qui sont en la matière des modèles d'excellence technique et avec qui je me suis régalée à chaque entraînement à répéter les gammes indéfiniment. Ouais.
Alors il y a le travail qui paye, hein, il y a que le travail qui paye, vous le répétez à de nombreuses reprises dans le livre, vous racontez votre entrée en sport-études à Tours, puis au lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon en Vendée, vous entrez dans ce club qui est en D1 lorsque vous y êtes, en D1 féminine, d'abord comme remplaçante puis comme titulaire, après le bac vous vous inscrivez à la fac de Nantes, et là c'est votre grande fierté parce que vous allez réussir à mener de front vos deux carrières, c'est-à-dire la carrière de footballeuse qui va devenir une footballeuse professionnelle, et la carrière d'universitaire en master.
Oui, tout à fait. Alors, juste avant, sur l'épisode universitaire, je prends une licence universitaire parce que je suis un peu dégoûtée du foot à cette période. Je trouve plus plaisir à jouer, et surtout, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à devenir footballeuse professionnelle et à jouer en équipe de France. Et c'est précisément où je lâche prise sur ce rêve que finalement, j'obtiens ma première sélection pour les moins de 20 ans au Chili. Et ça se passe juste avant mon master puisque c'est en L2. Et mon master démarre à Montpellier, et cet enchaînement sur la thèse, c'est aussi lié à cette fameuse blessure en 2011 qui survient alors que je ne m'y attends pas. Et ma Coupe du Monde à moi, ça va être de décrocher cette fameuse première place au concours élitiste de l'école doctorale. Il s'agissait de décrocher un financement de thèse. Et donc forcément, j'y ai vu un vrai challenge et j'ai eu envie de le remporter tout de suite.
Ah, et votre master porte donc sur les stéréotypes du genre en milieu sportif. Donc forcément, le sport et le master vont se nourrir mutuellement en permanence. Et vous constatez d'ailleurs, au cours de votre étude, que les filles et les femmes ont parfaitement intégré les différents stéréotypes dans le milieu du sport qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, oui, tout à fait. Mais on peut le voir encore aujourd'hui. En fait, quand j'entends certaines joueuses prendre la parole dans les médias et se justifier tout de suite qu'elles restent femmes, qu'elles restent féminines, j'entends là encore les injonctions à la féminité qui leur sont faites. C'est-à-dire qu'elles ont le droit de jouer au foot à condition qu'elles restent femmes, à condition qu'elles ne se masculinisent pas trop, qu'elles ne deviennent pas lesbiennes, etc., etc. Et donc, en fait, ça revient à la même chose. C'est-à-dire on les traitait de garçons manqués étant petites, donc elles vont tout faire pour nous faire croire ou nous faire voir qu'elles sont avant tout des femmes. Et c'est dommage. Moi, j'aimerais que ce soit des femmes libres et qu'elles s'autorisent à jouer au foot sans aucune contrainte.
N'allez pas, Julie, vous roulez dans l'herbe quand monsieur l'abbé déjeune au château. N'allez pas non plus jouer au proverbe avec les bergers aux tendres flutiaux. Et je vous défends, vilaine petite, nue dans la rivière au milieu du bourg, de dire au pêcheur, je suis une truite, me pêche qui veut m'apprendre l'amour. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentelle, faites de l'aquarelle, de la pâtisserie, de la tapisserie, mais n'allez pas surtout courir le guille doux avant de prendre.
La chanson s'appelle Julie et c'est la voix de Marcel Amont que vous avez peut-être reconnu dans VMDN sur RFI. Cette chanson, on l'entend à deux reprises hein, dans votre spectacle, Michael Filippo. Et c'est une chanson sur laquelle Bettina va danser, alors sur des pas de ballerine, sur des pas de danseuse classique. Comment est-ce que vous avez mis au point avec elle ce passage?
En fait, il se trouve que c'est un solo qui marque la fin, c'est-à-dire qu'en fait, l'émission qu'on entend au tout début, on entend, je me répète, mais la voix de Gigi Swef, ça enchaîne dans cette émission avec ce tube misogyne de Amont.
Voilà, et la chorégraphie, elle intervient plus tard.
Elle intervient à la toute fin de la pièce, donc on réentend encore cette voix. Alors qu'on a traversé tous les propos, donc il y a une sorte de réminiscence comme ça. Et Bettina s'extrait en effet et danse avec des mouvements à la fois, vous dites de ballerine, oui, il y a elle a un parcours, elle a pris des cours de danse classique, donc on utilise à la fois cette gestuelle très codifiée et en même temps un autre corps qui fait partie aussi de Bettina, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de très brut. Et donc ça oscille en permanence entre des mouvements entre guillemets qu'on va qualifier avec plein de guillemets de gracieux qui seraient plutôt issus de la danse classique et puis des mouvements beaucoup plus terriens, beaucoup plus rudes, beaucoup plus brutes. Et on a créé ce solo très rapidement, en fait, dès le début du processus. Et je me souviens de la première ouverture de ce travail, après six mois de... Et je pense que c'est ce jour-là où on a dit, allez, on se lance dans l'aventure, on va vraiment aller vers une pièce professionnelle avec cette équipe, avec ces femmes. Et le solo était déjà présent.
Je ne discute pas football avec les femmes. Je le dis parce que c'est mon caractère. C'est comme ça. Qu'elles s'occupent de leur casserole et ça ira beaucoup mieux. Bernard Lacombe, dirigeant de l'Olympique Lyonnais et ancien footballeur, 2013.
J'ai 16 ans. Je suis surexcitée parce que je vais voir pour la première fois la pelouse de Gerland en vrai pour un Lyon-Toulouse. J'arrive dans le Mirage Nord. Je vois tous les regards tournés vers moi. Je réalise que je suis la seule fille de la tribune. Et devant moi se déplie une banderole géante. Les hommes au stade, les femmes en cuisine.
Un soir, tu es à l'entraînement. Tu mets ton maillot, ton short, tes crampons, tes protège-tibias. Tu arrives sur le terrain, mais là, c'est pas un sort comme les autres. En plein match, t'as des bouteilles d'eau qui s'explosent au sol, tu lèves la tête, t'aperçois un groupe d'ados qui est monté sur le toit de l'immeuble, te balancer des bouteilles pleines et des insultes. Tu tournes la tête, tu t'aperçois que le match des mecs d'à côté, c'est même pas interrompu. Et le lundi suivant, tous les lundis suivants, tu passes tes entraînements sous surveillance policière.
Mais pourquoi tu veux pas que je joue au foot ?
Quand ma fille a démarré le football, c'était dans un club de foot masculin. Les garçons avaient le vestiaire et elle, c'est de la carabale.
Quand je dis que je fais du foot, les deux premières questions qu'on me pose, c'est quel est le pourcentage de lesbiennes dans ton équipe et ça se passe comment sous les douches?
attendiez à quoi? Bon, 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 bon.
Voilà, c'est à cet instant-là du spectacle que vous avez récemment intégré les propos d'Alain Finkielkraut qu'on évoquait tout à l'heure, Michael Philippot. Comment est-ce que l'on peut, vous avez beaucoup réfléchi à la question, Mélissa Plaza, comment est-ce que l'on peut éradiquer ces stéréotypes-là tels qu'on les entend? Est-ce qu'il y a une méthode? Parce que vous ébauchez quelque chose dans le livre, vous dites là, finalement la seule solution c'est d'inculquer aux gens des contre-stéréotypes. Donc en fait c'est de traiter le mal par le mal d'une certaine façon.
Alors pas forcément des contre-stéréotypes, mais éduquer en tout cas, ça c'est une question fondamentale, éduquer tout le monde. C'est-à-dire donner des outils, parce que c'est bien facile de dire que c'est pas bien, que cette affiche est sexiste, que ces propos sont sexistes, que cette attitude est misogyne, mais si on n'explique pas aux gens comment décrypter ça, qu'on leur donne pas les outils pour faire mieux, bah nécessairement ils vont les reproduire. Donc je suis partie prenante de, je sais pas, chaque pub, chaque affiche sexiste, de décrypter par exemple avec les enfants ce que ça sous-entend, ce que ça a comme conséquence, pour les amener à réaliser qu'on peut faire différemment et que ça peut être bien mieux. Et du coup la question de l'éducation elle est centrale, parce qu'il y a plein de gens qui sont j'allais dire inconsciemment ou de façon non intentionnelle sexiste ou misogyne. Alors je parle pas de Finkielkraut parce que lui il l'est volontairement, et je me demande d'ailleurs si c'est pas pour se faire un peu mousser dans les médias, mais
même dans le milieu du football, Mélissa Plaza, par exemple, vous évoquez cette campagne de promotion du club de Montpellier, hein, qui visait justement à promouvoir le football féminin, et qui a utilisé des codes sexistes sur ses affiches. Oui. Et vous en avez été la victime.
Et je suis persuadée qu'en plus, dans leurs premières intentions, ils pensent pas à mal en faisant ça, malheureusement. Et d'ailleurs, les filles ne se rendent pas compte. Si vous regardez le making-of de cette séquence photo, vous voyez Ouda Lataf qui nous dit très clairement... moi je laisse les autres photos aux professionnels, donc elle pense qu'à travers la photo avec la chaussette elle va pas être sexualisée, elle va pas être érotisée, mais la photo l'est tout autant que la mienne, si ce n'est qu'elle est plus couverte que moi. Mais en réalité oui, on s'est fait un peu piéger, et oui, c'est ce que je dis souvent, mais je suis pas née féministe, je le suis devenue en faisant notamment ces erreurs, parce que au départ je me disais vraiment ça va être chouette, on va enfin nous donner de la visibilité, et c'est après coup que je comprends que c'est surtout pas comme ça qu'il faut qu'on parle de nous, qu'il faut qu'on parle seulement de nos performances et surtout pas de nous montrer sous ce jour-là, parce que moi j'ai été érotisée, mon corps n'est qu'un corps coupé, et c'est un buste avec une paire de fesses, c'est terrible. Plus le slogan qui est sans appel, bien sûr.
Alors la visibilité, évidemment, là, elle va être maximale. À l'occasion de ce mondial à Paris, ça va réellement changer les choses pour vous?
Bah écoutez, j'ai l'impression, parce qu'on a fait presque 11 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, je pense que c'est très bon augure. Elles ont montré un football fabuleux. Elles ont été fabuleuses, elles ont été authentiques, elles ont montré des larmes, elles ont montré leur détermination. D'ailleurs, je leur ai fait un petit article dans le journal le lendemain pour leur tirer mon chapeau, parce que on a senti que à la fois il y avait de l'émotion, parce que on sait ce qu'elles ont traversé pour en arriver là, et en même temps, elles se sont pas laissées submerger, elles ont montré qu'elles étaient vraiment favorites dans cette compétition.
Voilà, et c'est vrai que certaines d'entre elles sont en train de devenir des stars vraiment pour le très très grand public. Français et pas seulement français, hein, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Élise Boussaglia, Amandine Henry, Valérie Gauvin, vous les avez croisés. Hein,
oui, je les connais bien.
Dans votre carrière, vous les connaissez.
Pour la plupart, je les connais bien. Alors, il y a deux, trois pépites plus jeunes que je connais moins bien. J'ai croisé Delphine Cascarino qui est en train de, avec une fulgurance, de franchir, de gravir les paliers. Je pense qu'elle va faire un mondial complètement dingue et on va avoir vraiment besoin d'elle pour nous amener le plus loin possible. Mais effectivement, j'en connais pas mal dans cette équipe et j'ai cœur qu'elle réussisse à avoir enfin un titre. Je pense à Élise, pour qui je voue une admiration sans limite. J'espère qu'au terme de sa carrière, elle comptera un titre au niveau international, vraiment.
Eh bien, on l'espère aussi. En tout cas, l'histoire des Bleus au féminin ne date pas d'hier, et une exposition itinérante revient d'ailleurs en ce moment en France sur leur histoire. Fanny Bechner l'a visitée pour nous.
Il était une fois les Bleus, c'est le nom de cette rétrospective itinérante dont l'objectif est de faire connaître l'équipe de France féminine actuelle, mais aussi l'histoire du football féminin. Une exposition organisée par Elisabeth Boujard-Tournon de la Fédération Française de Football, en charge de la promotion de l'équipe de France féminine dans les territoires.
Et le football féminin a démarré réellement déjà à la fin du 19e siècle, un petit peu, mais autrement à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, dans les années 20. Je pense qu'à la sortie de l'effort de guerre, les femmes sont sorties pour faire du sport. le foot a été l'activité majeure de ces femmes. Donc, des années 20 jusqu'aux années 70, ça a un petit peu joué. Pendant la guerre de 39-45, ça a été jugé nocif pour les femmes, donc interdit. C'est reparti dans les années 70 pour être, en mars 70, reconnu officiellement à la fédération. Et après, c'est parti sur des époques d'apprentissage. Et on a commencé réellement à se qualifier dans les grandes compétitions internationales en 97.
L'exposition revient donc sur ces différentes périodes en les rendant palpables, car la particularité c'est que les vitrines sont composées exclusivement d'objets prêtés par les joueuses de toutes les époques, comme le ballon d'argent d'Amandine Henry remporté à la dernière Coupe du Monde en 2015, le maillot du 80e but de Marinette Pichon, ou encore le survêtement du premier match en 71. Martine Fuentes est une ancienne internationale attaquante dans les années 80, elle a aussi apporté sa pierre à l'édifice.
J'ai prêté un de mes maillots de 1988, donc du Mondialito en Italie. C'était un des premiers tournois internationaux, donc non officiel, on va dire, une mini Coupe du Monde non officielle. J'ai prêté aussi donc un ballon de la Coupe du Monde 2011, puisque je l'ai suivi en tant que supportrice, le ballon donc du France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2011, ainsi qu'un maillot de Corinne Franco.
Une contribution importante pour celle qui est aussi supportrice numéro 1 des Bleus, dont elle suit toutes les compétitions.
Je trouve ce musée vraiment très très bien pour dire aux gens le football féminin en France n'a pas débuté là en 2011 par exemple où elles ont commencé à avoir des résultats. Depuis bien longtemps il y a eu des pionnières et voilà, on en a bavé pour arriver là, donc voilà, c'est une reconnaissance aussi des anciennes.
Autre aspect intéressant de cette exposition, la composition d'une équipe de légende. Elisabeth Boujard-Tournon.
On s'est imaginé sélectionneur de l'équipe de rêve de 50 ans de football féminin français en tenant compte bien entendu des époques mais aussi des postes et puis après sur des critères assez objectifs de nombre de matchs joués par rapport au nombre de matchs possibles. Il faut savoir qu'à une époque, il y avait 3-4 matchs dans l'année. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, bonne dizaine, voire des fois plus. Vraiment un vrai algorithme factuel. Et on a sorti 23 noms en respectant toutes les époques avec les 23 légendes du football féminin français, forcément de joueuses retraitées, parce que les joueuses actuelles ne sont pas dans ce 23 de légendes. On retrouve les joueuses majeures, quand même, que sont Marinette Pichon, quand même, qui est bien connue du grand public, puisque c'est la meilleure buteuse de tous les temps à ce jour. Il y a également des années d'origine Isabelle Musset, la première gardienne de but Marie-Lou Budzik, mais entre-temps, nous avons Corinne Diacre, qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. On a des grandes joueuses de toutes les époques, les moins connues à l'époque d'origine, les plus connues sur les périodes récentes.
En plus des mannequins, de divers objets et vidéos, un casque de réalité virtuelle permet de suivre les Bleus à Clairefontaine, dans le vestiaire, à table, à l'entraînement et bien sûr sur le terrain à 360 degrés.
Fanny Blechner pour VMDN, Michael Filippo, vous êtes devenu supporter des Bleus, vous disiez au départ que vous n'étiez pas forcément fan de football, là vous vous y êtes mis ?
Je suis en train de m'y mettre, je suis en train d'être converti, j'ai l'impression, mais je rebondis, parce que pour moi ça a été aussi une grande, enfin, je ne pouvais pas imaginer que l'histoire du football pratiqué par les femmes était un réel filtre de la société, c'est ce qu'on entend là, c'est-à-dire que le premier match, je crois, joué contre des étudiants, date de septembre 1917, donc en pleine Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, sous Vichy, complètement prohibé, interdit. Puis revival du football pratiqué par les femmes en 68, début des années 70. Et pardon, je fais aussi une petite pub parce que une des interprètes, Hortense Bellotte, qui est conférencière et une très belle comédienne qui interprète dans Footballeuse, a terminé de créer en février dernier une conférence qui s'appelle Une histoire du football féminin. Elle a fait un travail d'archives incroyable et elle retrace la grande histoire du football pratiqué par les femmes à travers des petites anecdotes de sa vie. Et c'est un petit bijou.
Merci beaucoup, Michael Filippo. Footballeuse, c'est encore demain au nouveau théâtre de Montreuil. Merci également à vous, Mélissa Plaza. Pas pour les filles, avec un point d'interrogation, hein, je le rappelle. Aux éditions Robert Laffont, elles vont gagner les Bleus, elles vont gagner le mondial.
Évidemment.
Évidemment, elles sont plus fortes que les Américaines, plus fortes que les Allemandes, plus fortes
sans
que les Japonaises, tout le monde.
Sans conteste.
Rendez-vous est pris, en tout cas. Merci beaucoup. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec une voix superbe, celle du chanteur burundais JP Bimeni. Un rescapé du génocide qui a trouvé une forme de résilience dans la musique soul. L'album Free Me de JP Bimeni de Black Belt, c'est disponible chez Tucson Records et vous m'en direz des nouvelles.